bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. C'est maintenant Parole solidaire, notre rendez-vous sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro André Isidio de Mello. Bonjour.
Bonjour, Oscar.
Vous êtes directeur d'ADRA France. C'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, André, vous allez revenir sur la situation en Ukraine. Où est-ce qu'on en est sur le plan humanitaire à presque 3 mois après le début de la guerre?
Voilà, bon, la situation, malheureusement, elle évolue d'une façon assez lente. Nous avons des changements dans les contextes locaux, même national et mondial. Les conséquences de cette guerre, parce qu'elle est multifactorielle, en fait, nous avons des facteurs même au niveau de la famine au monde. Donc, on a des estimatives que la famine au monde risque d'augmenter en conséquence de cette agression en Ukraine. En Ukraine même, il y a toujours des difficultés dans certaines régions pour faire des évacuations. L'accès humanitaire n'est pas assuré du tout. Donc, il y a des tentatives pour ouvrir un accès à Mariupol et à d'autres villes, mais la situation est assez dramatique.
Donc, ça veut dire que les personnels humanitaires sur le terrain ne sont pas en sécurité?
En fait, il y a eu une réussite depuis plusieurs tentatives de sortir quelques personnes de Mariupol, mais nous estimons à peu près 100 000 personnes qui sont encore dans la ville. Et il y a des personnes qui sont directement attaquées, qui sont souterrains en fait, et qui se cachent, et notamment dans l'usine de production d'acier en fait, qu'ils ont là-bas. C'est très dramatique parce qu'ils n'ont plus d'électricité, ils n'ont pas d'eau ou pas beaucoup, ils ont aussi une quantité limitée de nourriture. Et la situation est très dramatique avec des civils, des femmes, des enfants, des soldats blessés.
C'est compliqué dans le cadre humanitaire d'intervenir auprès de ces populations.
C'est compliqué d'arriver là-bas parce que bon, plusieurs tentatives ont été faites. Et au moment d'envoyer les bus qui permettraient à ces gens de sortir, on va dire que les attaques se sont recommencées. Et même dans la sortie de ces gens, une fois que les bus sont arrivés, il y a beaucoup de checkpoints, parce que c'est des zones déjà contrôlées par les Russes, et il faut passer par tous ces checkpoints. Et ce n'est pas tout à fait simple, c'est là.
Alors donc ça c'est la situation à l'intérieur du pays, de l'Ukraine. Oui. Et puis il y a aussi tous ces réfugiés hein, qui sont partis d'Ukraine, et qui ont été se réfugier dans les pays limitrophes en Europe. Vous pouvez nous parler de cette situation aussi concernant les réfugiés ukrainiens?
Oui, tout à fait. Enfin, bon, aujourd'hui, nous estimons là un nombre assez élevé des personnes qui sont parties. Donc, nous avons déjà à l'intérieur du pays 7,7 millions de personnes. Dans ces 7,7, il y aurait environ 2,7 millions qui ont pu retourner dans leur maison après la sortie de la Russie de certaines parties du pays. Mais nous avons plus de 5 millions de personnes qui ont quitté complètement les pays depuis le début de cette guerre, le 24 février.
Alors donc, l'accueil des réfugiés s'est organisé hein, dès le départ. Aujourd'hui, André Isidio de Mello, quelle est la réponse ou les réponses humanitaires à apporter concrètement au quotidien?
Bon, déjà, comme on a mentionné rapidement, cette guerre risque d'aggraver la situation mondiale de la lutte contre la pauvreté. Nous estimons déjà pour l'Ukraine, si la situation s'améliorait assez vite maintenant, on estime déjà une baisse de 35% de l'économie ukrainienne cette année. Nous voyons aussi des perspectives assez sombres au niveau alimentaire. On voit que les conflits vont exacerber la faim dans le monde, notamment dans les pays déjà confrontés à la famine, parce que l'Ukraine exporte un nombre très important des produits qui auront un impact significatif sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, ce qu'aujourd'hui on doit faire, c'est vraiment essayer d'aider le plus possible les agriculteurs ukrainiens qui ont encore la possibilité de planter, qui sont dans des zones qui ne sont pas encore en conflit, de les aider à planter des légumes et des pommes de terre, du blé et tout ce qu'ils plantaient avant. En fait.
Donc, leur apporter la matière première peut-être ?
Et essayer de faire ce que nous puissions avoir leurs champs et des retours en production pour la récolte des blés d'hiver, en fait.
Donc c'est à ça qu'il faut veiller d'ores et déjà.
Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut agir vite. Mais il y a plusieurs autres types d'aides qui sont nécessaires aujourd'hui. Enfin, il y a l'aide financière.
C'est ce que ADRA France fait comme action sur le terrain.
C'est parmi les actions que nous faisons. Donc on donne l'argent ou des vouchers, des coupons, qui permet aux personnes d'aller acheter dans les commerces locaux. L'intérêt est aussi de faire circuler de l'argent et de renforcer l'économie locale, qui passe par des grosses difficultés. Mais il y a, surtout dans les régions et dans les villes où l'économie ne fonctionne pas aussi bien, il y a besoin d'assistance des dons en nature, l'alimentaire ou des produits d'hygiène, tout type de besoins en fait. Et ça, c'est surtout important lorsque l'économie locale ne fonctionne pas ou fonctionne moins bien. Ils ont besoin clairement des protections. Il y a beaucoup d'enfants non accompagnés. Il y a aussi des problèmes de communication qui renforcent les difficultés de sécurité. L'accès à Internet, l'accès aussi à la téléphonie n'est pas partout. Et il y a des régions où il y a encore des risques liés aux explosifs des guerres et des mines qui ont été laissées. Bon, il y a encore besoin de l'habitat, comme on a discuté avant, en fait, mais aussi dans les pays autour, notamment la Pologne, où il y a un nombre très important d'Ukrainiens. Et cette situation est compliquée, surtout dans les long terme. Donc, héberger des familles pendant quelques mois, c'est une chose, mais quand ça devient très long, ça devient de plus en plus compliqué.
Et donc, ADRA France envoie du matériel sur place ou dans les pays limitrophes, d'ailleurs ?
Tout à fait.
Je crois qu'il y a un convoi qui part pour la Pologne, là.
Tout à fait. Cette semaine, nous avons une collaboration avec la protection civile. À la protection civile, nous envoie 4 semi-remorques cette semaine qui doivent arriver en Pologne ce vendredi. Et ADRA Pologne récupère les matériels et envoie directement en Ukraine pour surtout l'aide médicale. Donc là, il y a dans ces convois, nous avons plus d'un million d'euros des matériels, surtout du matériel médical, qui est très important pour l'assistance médicale. En fait, nous avons un vrai besoin sur place. Nous estimons que nous sommes plus forts
à plusieurs.
À plusieurs. Mm-hmm. Donc nous collaborons avec Amalf, qui aussi donne quelques matériels médicaux. Nous avons nos antennes en France, 70 antennes qui collectent du matériel, qui sont ensuite envoyées, du matériel alimentaire surtout. Nous essayons d'être un peu polyvalents dans ce qu'on peut faire pour aider la population qui est déplacée ou qui est encore en Ukraine. Donc en fait, nous avons 3 types de façons d'aider. Nous pouvons soutenir les individus et les familles qui sont encore à l'intérieur de l'Ukraine, y compris ceux qui restent sur place et ceux qui ont été déplacés, donc ces 2 types. Nous avons aussi la possibilité de fournir une assistance aux pays d'accueil en Europe qui accueillent des milliers de réfugiés, voire des millions. Et nous avons aussi une troisième façon d'agir, c'est réagir aux retombées économiques mondiales, notamment ce qu'on a parlé concernant l'alimentation et ce qui concerne la famine, compte tenu de l'impact sur l'exportation des produits alimentaires qui ne sont pas en train de se faire de l'Ukraine et aussi de la Russie.
Et alors André Isidio de Mello, aujourd'hui les auditeurs là qui nous entendent, qui vous écoutent, comment est-ce qu'ils peuvent participer à soutenir les actions d'ADRA en Ukraine ou pour les Ukrainiens qui sont aussi réfugiés ?
La façon plus rapide, c'est d'aider en ligne sur notre page.
Faire un don en ligne.
Faire un don en ligne, adra.fr. Mm-hmm. Il y a une collecte pour aider les personnes dans cette crise.
Pour l'Ukraine.
Non seulement pour l'Ukraine, mais toutes ces crises que nous vivons.
Oui.
Nous avons aussi des possibilités d'aider localement. Si vous avez des associations locales ou même une antenne ADRA et que vous voulez donner des denrées alimentaires, vous pouvez aussi amener. Et vous pouvez aussi participer dans la communication. En fait, nous avons des comptes sur les réseaux sociaux et vous pouvez participer aussi en relayant cette information à d'autres personnes qui peut-être ne connaissent pas ce qui se passe aussi bien que vous.
Voilà, donc un site adra.fr, c'est tout simple.
C'est ça.
Et puis, quand on veut faire un don financier, par exemple, même les petites sommes sont bienvenues.
Complètement.
On n'a pas besoin de faire des gros dons.
Voilà. Comme on a dit, la collaboration, ensemble, nous sommes plus forts. Mmh. Et chaque héros est très important pour aider à sortir de cette crise.
Voilà, donc un tout petit geste est aussi le bienvenu.
Complètement.
Merci beaucoup, André Isidio de Mello. On se retrouvera sans doute pour une nouvelle émission de Paroles solidaires. Vous êtes directeur d'Adra France. Merci, à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
This is Adventist World Radio, the voice of hope.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de COVID-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans « C'est vous l'histoire ».
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
C'est une succession d'histoires autobiographiques où je passe de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte et où je partage des choses qui me sont très personnelles mais qui sont vécues aussi par beaucoup.
Internet a bouleversé le monde de la production musicale. Désormais, les artistes peuvent plus facilement faire connaître leurs chansons, voire même les faire produire par les internautes pour sortir leur album. C'est ce qui s'est passé pour Sigrid Flory, l'invitée de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Christine Raymond a poussé les portes d'un studio d'enregistrement pour rencontrer cet auteur-compositeur-interprète de talent. Sigrid Flory, bonjour.
Bonjour.
Un prénom, Sigrid, qui sonne un petit peu comme le début d'une légende scandinave, nordique.
Ça vient de par là, oui, c'est vrai. Ça veut dire victoire et libération.
Alors Sigrid, c'est un petit peu la musique qui vous a fait connaître à nous. Par quelle autoroute ou alors par quel petit sentier la musique est rentrée dans votre vie?
Alors d'abord, je chantais beaucoup enfant. Et ensuite, je pense que j'ai baigné dans un univers musical. Et puis j'ai monté une association avec un ami qui s'appelait Gospel House, où on a fait pas mal de concerts, de scènes ouvertes, de podiums jeunes talents, tout ça. Et de fil en aiguille, tout doucement, moi je me suis mis à écrire mes propres textes, un peu des histoires personnelles. Et je me suis retrouvée avec un EP, un petit album 5 titres autobiographiques que j'ai posé sur Internet pour voir un peu ce que ça donnait avec les internautes et puis les gens autres que tata, tonton, papa, maman qui disent c'est très bien, on a envie d'avoir d'autres avis. Hein. Donc voilà, c'est un peu un cheminement, voilà, il y avait ça sur la route.
Donc la musique était toujours présente, le chant notamment, depuis très longtemps.
Oui, ouais. Ou la danse, j'ai aussi beaucoup aimé la danse. Et la musique me parle énormément en tout cas, et je l'utilise comme un véhicule pour communiquer.
La jeune chanteuse se livre beaucoup dans ses chansons, notamment avec ce premier fait marquant, alors qu'elle est âgée d'à peine 5 ans.
Donc là, je parle du divorce de mes parents, dans la chanson qui s'appelle « Mon père ». Pour moi, j'utilise la musique comme un véhicule, un véhicule qui aide l'émotion, qui simplifie un petit peu les blessures ou les histoires. Et dans cette chanson, je le raconte avec des yeux d'enfant, en fait. Comment on vit ça quand on a 5 ans? Je dénonce aussi la banalité, ce qu'on dit, ça arrive à tellement de monde, voilà, ça va passer. J'ai des petits morceaux de texte dedans où je dis, il paraît que ça fait pas mal, il paraît que ça va passer, et puis le temps passe, et puis ça, c'est pas toujours aussi facile. Et cette chanson, elle se construit aussi jusqu'à arriver à l'âge adulte, où je dis, maintenant on me dit que c'est quelque chose de banal ou de normal, et puis je trouve qu'en fait c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Voilà.
Vous avez grandi en France?
En France, en Suisse, en Belgique.
Voilà, donc le départ de cette histoire en tout cas était en France.
En France, oui.
Et puis il y a eu la Suisse. Dans une de vos chansons, vous partez pour le château du roi, là où quelqu'un vous tend la main. Alors Sigrid, apparemment vous côtoyez une famille royale.
Je fais partie privilégiée parce que j'ai grandi dans un château, c'est vrai. Donc dans un château en Suisse, canton de Vaud, à Moncheron. Et en fait, je raconte dans cette histoire que mes parents habitaient dans le nord de la France et moi j'ai grandi dans un internat au château de Moncheron. Et voilà, donc je raconte un peu qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'ai 6 ans, mes parents viennent de se séparer, ma mère est obligée de nous envoyer un peu loin. Et arrivé là-bas, ce que je raconte un peu, c'est l'accueil. J'ai été accueillie par des femmes, c'était exclusivement des femmes, je sais pas pourquoi, mais qui aimaient beaucoup, beaucoup les enfants. Et je me souviens encore d'une qui était, j'étais sur la gare, on sortait du train, j'étais avec ma valise qui était presque plus grosse que moi, et elle est venue en face de moi, elle s'est mise à ma hauteur, puis elle m'a dit, comment tu t'appelles, avec un gros accent anglais, comment tu t'appelles, tu viens d'où? Et viens, je vais te prendre ta valise, bienvenue. Et c'est quelque chose, je venais d'un milieu très très difficile où l'enfance n'était pas vraiment considérée. Et là, d'un coup, en me regardant dans les yeux, j'existais. Et voilà, je passais 3 mois là et je rentrais une semaine. Et au début, on devait y aller pour 1 ou 2 trimestres. Et en fait, ma sœur et moi, on a beaucoup, beaucoup aimé. Puis on a dit qu'on voulait y rester beaucoup plus longtemps et on est resté 5 ou 6 ans là-bas.
Et le château du roi?
Pourquoi le roi?
Oui.
Parce que c'était des gens très croyants qui faisaient ce service-là aussi pour plaire aux dieux en qui ils croyaient. Et voilà, souvent on parle de Dieu comme le roi ou le roi des rois. Donc voilà, je voulais pas appeler la chanson Le Château de Moncheron, parce que déjà faut le prononcer, qu'on n'est pas du coin. Et je trouvais que le château du roi, c'était ça. Là-bas, c'était la rencontre avec Dieu en fait, avec le roi.
De son enfance mouvementée, la chanteuse française évoque aussi la relation avec son père, ce papa qui dans un premier temps se bat pour la garde de ses enfants et qui ensuite ne donne plus signe de vie pendant des années.
Mes parents, donc, quand il y a eu la séparation de la famille, ils se sont battus pour la garde, comme ça arrive très souvent. Et ça a été assez long, où ma mère allait se cacher à droite, à gauche, mon père nous récupérait. Donc, nous, on a été quand même pas mal trimballés un peu au milieu de tout ça. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très déstabilisant. Moi, j'avais 4 ans et c'est encore très, très net dans mon esprit de devoir me cacher de mon père ou de ma mère ou tout ça. Oui, donc ils se sont disputés un peu la garde comme ça. Et ensuite, une fois que mon père n'a plus la garde, il a disparu pendant 25 ans. Voilà, pendant 25 ans, j'ai pas eu de nouvelles. Jusqu'à un coup de fil à la maison. Voilà, c'est papa, ça fait 25 ans. Et... Donc on a essayé de reprendre contact et puis on se voit plus ou moins régulièrement. Il habite un peu loin de chez moi. Mais on rattrape pas 25 ans en quelques jours, quoi, c'est sûr.
Vous parliez de Dieu tout à l'heure, Sigrid. Quand on parle de Dieu, alors le mot Dieu, ça peut dire beaucoup de choses, hein, mais on dit souvent Dieu le Père. Comment ça s'articule dans votre esprit par rapport à cette relation au Père?
J'essaye de séparer tout ce qui est émotion et tout ce qui est intelligence, presque. J'essaye de lire la Bible plus ou moins régulièrement et puis de retirer de retirer des promesses un peu, parce que avec tout ça, je pense que la Bible est un presque un code de conduite un peu pour moi, dire voilà ce qui est vrai, quoi. Et je sais que Dieu est là tous les jours, que je le sente ou que je le sente pas, voilà. Donc j'essaye de m'accrocher avec ça. Il y a des jours où c'est plus ou moins facile et voilà.
Vous avez dit aussi Dieu vient nous chercher. Est-ce qu'on dit pas plutôt que c'est nous qui cherchons, nous en tant qu'êtres humains qui cherchons Dieu?
Je pense que nous, on cherche Dieu, qu'on est presque créé comme ça. Bon, après, c'est des convictions un peu personnelles, mais j'ai l'impression qu'on est un peu créé pour ça. Mais surtout, moi, quand je dis Dieu vient nous chercher, c'est les fois où ça nous semble trop difficile, en fait. Trop difficile, toujours cette histoire de prendre les bonnes directions, trop difficile de dire, il y a plein de fois où je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, je vais finir marié avec un plouc et, je sais pas, boire des bières toute la journée. Mais voilà, Dieu vient me chercher, ça veut dire, il y a un moment où, quand moi, je me sens un peu sans force ou faible ou... Eh ben, y a des choses qui se passent, quoi. Il y a des choses un peu extraordinaires, des rencontres, souvent des rencontres. Des gens qui viennent sur notre route et puis petite bouffée d'oxygène et ça repart, quoi.
C'est ça la relation à Dieu? C'est des bouffées d'oxygène?
Oui, je pense que c'est ça. Et puis des coups de pouce. Des choses que nous, on sait pas faire, quoi. Moi je suis pas magicienne.
Elle s'immisce, c'est la dernière chanson de Sigrid Flory que nous allons écouter maintenant. Elle y raconte la vie de couple, quand rien ne va plus, quand l'un des deux est tenté de s'en aller, un regard de l'intérieur.
Cette chanson, Elle s'immisce, où je raconte que le mariage, c'est pas toujours des hauts, hein. Il y a aussi des bas, il y a des doutes. Il y a des fois, voilà, on se réveille un matin et puis pour diverses raisons, pour divers écueils sur la route ou des tensions dans le couple, et ben voilà, on se dit, mais est-ce qu'on va réussir à marcher encore comme ça combien de temps? Est-ce qu'il faut, il y a un moment où on se dit, ben j'en ai assez, je vais pas tenir ça. Et cette chanson, elle dit, ben alors si je lâche tout maintenant, ce que j'ai eu du mal à construire, hein, quand même, et ben si je lâche tout maintenant, est-ce que dans 10 ans je vais me réveiller à côté de quelqu'un d'autre et me dire, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il y aurait pas fallu que je reste un petit peu pour me battre? Est-ce que c'est pas ça le mariage de toute façon, avec des fois où ça va bien et puis des fois où il faut se battre un petit peu? Enfin, il faut un peu remettre les choses à plat parce que les années passent, on change, on n'est pas pareil à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et quelquefois, on bouge plus vite que le conjoint et voilà. Donc, pas quitter le navire quand il a la tempête, mais essayer de se projeter un petit peu. Cette chanson, elle se projette et elle dit, ben, dans 10 ans, est-ce que je vais regretter d'avoir pas su vivre ce refrain, pas su tenir cette petite période de doute, quoi. Donc cette chanson m'a fait beaucoup de bien, hein, quand je l'ai écrite. J'ai l'impression d'être restée presque en se bouchant les yeux et les oreilles et dire, c'est là ma place et je vais rester un moment et après ça revient. Donc j'encourage les gens qui nous écoutent parce que ça vaut le coup des fois d'attendre et puis de se battre pour ce qu'on a sous les yeux, parce que trouver quelqu'un d'autre, c'est chouette, pourquoi pas, hein, mais dans 10 ans, ben, on retrouve les mêmes problèmes et puis etc., autant garder ce qu'on a.
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette jeune femme bourrée de talent et de sensibilité, vous aurez plus d'infos à son sujet sur le site www.sigridflory.com. Bye.
Vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple, depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9 978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.